du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après de si longues annonces qui nous invitent à rentrer dans cette nouvelle année avec générosité et ferveur, nous avons un évangile connu et difficile. Difficile parce que de nos jours, tout ce qui est soulagement du pauvre est sujet à une confusion entre le spirituel et le politique. Alors pour essayer d'être plus léger, plus spirituel, nous essaierons d'éviter les pièges en lisant aujourd'hui la Sainte Écriture qui nous est donnée. Tout d'abord, dans un premier temps, nous verrons l'importance du Nouveau Testament et de l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. L'importance de cette pureté d'intention dans la foi. À qui parlons-nous et comment vivons-nous sous le regard de celui que nous prions? Est-ce que notre religion est la vraie religion du vrai Dieu, et donc nous demande une véritable vie de pureté, d'intention. Et dans un deuxième temps, eh bien, nous verrons en effet comment se manifeste vis-à-vis des autres la vraie religion, d'autant plus que nous verrons l'exemple des prêtres. Mais dans un premier temps, comprenons bien que la vraie religion est très exigeante. Et si le Créateur a voulu choisir un peuple au milieu de tous les autres peuples et de tout ce qu'ils avaient élaboré pour approcher Dieu, pour comprendre le monde, eh bien, ce peuple juif a eu dans un premier temps une prière très libre. C'étaient les pères de famille qui conduisaient la prière. Mais Dieu s'était révélé par miracle, par apparition, à Abraham spécialement. Comme il avait parlé à Adam, mais cela est peut-être trop surnaturel à entendre. Mais à Abraham, tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que Dieu lui a parlé. Et Moïse, lui, a relevé cette révélation d'Abraham après la descendance d'Isaac et de Jacob au nom d'Israël. Jacob changea son prénom en Israël parce qu'il avait été fort face à Dieu et qu'il voulait l'aide et la grâce de Dieu. Ainsi, nous avons dans cette religion de très nombreux miracles. La manière dont Moïse a sorti tout un peuple, 600 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants et les vieillards, près de 2 millions de personnes qui avaient prospéré dans le nord de l'Égypte. De nombreux miracles qui, de nos jours, sont relativisés ou niés, mais qui font le vitrail à nouveau de cette église. Regardez au-dessus du maître-autel et Moïse à votre droite, avec les tables de la loi. Et cette loi, c'est la loi naturelle, la manière dont Dieu nous a créés. Il n'est pas extraordinaire de prier ensemble, qu'il y ait le jour du Seigneur, le troisième commandement. Et on peut dire que les croyants sont des hypocrites quand ils pratiquent leur religion et la lettre de la loi. Que vous-même, de vous déplacer pour aller à la messe chaque dimanche, vous êtes des pharisiens, vous êtes hypocrites. Mais ces insultes sont à la fin lassantes. Parce que ceux qui accomplissent la loi écrite et qui vont à la messe, qui sanctifient le jour du Seigneur, sont finalement quand même ceux qui désirent connaître Dieu, leur Père, et agir selon la volonté de leur Père. ceux qui sont attentifs à ce que Dieu a révélé. Et c'est la raison pour laquelle réduire la religion catholique à l'observation de la loi et des 10 commandements et considérer l'enseignement de l'Église comme l'enseignement sclérosé d'un livre, c'est bien oublier que non seulement dans l'Ancien Testament il y avait des hommes, des femmes d'une très grande pureté d'intention et qui appliquaient la loi avec cœur et de tout leur esprit, mais que depuis que la promesse du Messie s'est accomplie et que Dieu s'est fait homme, en effet, comme le dit notre Seigneur, nous avons une grâce extraordinaire, car nous voyons et nous entendons ce que pendant des siècles le peuple hébreu a espéré, et nous l'avons. Nous avons ce Dieu qui s'est fait homme, né d'une femme, et qui nous oblige à nous tourner vers lui parce qu'il a habité parmi nous et qu'il a laissé sa présence quand il a pris le pain et le vin le jeudi saint, et que dans toutes les églises ce n'est plus du pain mais c'est bien Jésus lui-même avec son corps, son âme et sa divinité qui habite au milieu de nous et sur toute la surface de la terre. Alors il nous oblige, ce Dieu. Et il nous oblige à nous aimer les uns les autres. C'est un commandement. Là aussi, c'est écrit. Alors, voilà. Est-ce que nous suivons véritablement la beauté de l'Évangile et de la Nouvelle Alliance dans l'arrivée du Messie? Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Est-ce que nous nous soucions des pauvres? Je vais vous donner un exemple qui est toujours le même, au point peut-être de vous lasser, mais qui est sujet à méditation. Je suis un prêtre de la Nouvelle Alliance et je lis cet évangile aujourd'hui. Cet évangile me pèse, car je suis à Paris. Et à Paris, il y a de nombreux mendiants. Il y a des vrais, il y a des moins vrais. Et je vous confesse publiquement, parce que je pense que ce n'est pas trop grave, que parfois je change de trottoir quand je vois des Roms mendier, parce que je pense que c'est toute leur vie de mendier ou de faire autre chose et d'être repris le soir par une voiture pour être ramené au campement. Et que cet argent, ils n'en voient même pas la couleur, et ils vivent comme cela, dans des conditions bien étranges, depuis bien longtemps, dans leur peuple. Ensuite, je change de trottoir lorsque je vois un SDF alcoolique qui a perdu la raison et qui parle fort et qui demande de l'aumône, mais qui sent mauvais et qui est inquiétant. Je change de trottoir lorsque, près d'ici, au Franprix, depuis près de 10 mois, celui dont je vous ai déjà parlé a encore trouvé un matelas et par terre, couché depuis des mois, 20 heures sur 24, buvant de la vodka toute la journée. Lassé de lui dire qu'il y a au centre bergère, au centre paroissial, une association chrétienne aux captifs La Libération qui pourrait l'aider et le sortir de la rue. Oui, je suis fatigué. Fatigué par rapport à la faiblesse humaine, par rapport à la pauvreté et à la misère morale. Fatigué de se dire qu'il devrait être plus vertueux, qu'il devrait vivre avec plus de courage, qu'il devrait chasser la paresse dans sa vie, qu'il devrait se relever malgré les épreuves qu'il a pu vivre. Voilà pourquoi cet évangile me rappelle, en effet, mon devoir ne pas changer de trottoir, de passer quand même devant lui, ne pas forcément de lui donner de l'argent, mais essayer de lui donner de la nourriture ou du temps pour lui parler, simplement. Voilà qui nous pèse et qui, pour terminer, nous demande un esprit surnaturel pour nous, pour notre famille, nos voisins et pour la France et pour le monde. Car, en effet, des pauvres, le Christ nous a dit que nous en aurions toujours. Mais là, il y en aura beaucoup. Et nous avons besoin de paix. Nous avons besoin d'hommes, de femmes, d'enfants autour de nous qui suivent les 10 commandements. Qui ne nous blessent pas, qui ne nous insultent pas, qui ne font pas du bruit, qui ne dérangent pas une vie paisible et normale. Alors, certains diront, c'est une vie bourgeoise. Il faut du bruit, il faut un peu de saleté dans la rue, il faut du mouvement, il faut de la diversité. Mais c'est fatigant, parce que la véritable nature humaine, elle est dans la véritable dignité, dans une certaine propreté sur soi-même, dans une certaine exigence, comme les parents nous l'ont dit, de manger proprement, de nous habiller, de nous laver. Mais cela, ce n'est pas de la lettre, ce n'est pas seulement de la morale, c'est tout un ensemble. Parce que l'amour du prochain, c'est une vie commune, c'est une vie de société, c'est une vie en communauté, avec un respect mutuel, et pas seulement dans un seul sens. Alors, si nous sommes fatigués ou inquiets, eh bien que nous puissions prier pour que nos contemporains se posent des questions sur eux-mêmes, sur l'origine de leur vie, sur le temps qu'ils utilisent. Car de nos jours, par les loisirs et les plaisirs, beaucoup de personnes tuent le temps. S'il y avait plus de personnes pour vivre honnêtement et avec vertu, il y aurait plus d'aide authentique et véritable. Quand Saint Vincent de Paul ou Saint Camille de Lellis s'occupaient des pauvres, ils s'occupaient de leur âme profondément. Lorsque les petites sœurs des pauvres s'occupaient des pauvres miséreux, des personnes âgées, il y avait une communion d'intention. Ces personnes âgées voulaient être honnêtes, elles étaient humbles, elles avaient honte d'être aidées, alors même que c'est naturel pour nous de nous aider les uns les autres. Alors, confions tout cela à la Vierge Marie, parce qu'elle est la mère de tous ces hommes. Et pour vous achever, alors que j'ai eu le courage de passer sur le trottoir du Franprix, Omar m'a interpellé, a sorti un papier et m'a montré une image de Notre-Dame de Fatima que quelqu'un lui avait donnée. Et il m'a dit, « Père, père, ça va me protéger, hein ? C'est une protection. » Vous voyez, cela m'a désarmé. Alors que j'avais envie de lui dire de se lever, d'arrêter d'être dans cette misère, de se reprendre. Oui, quel monde particulier, avec un État qui dépense vos impôts et votre argent à faire 1000 choses. Voilà. Excusez de cette franchise excessive, mais que notre Seigneur puisse nous aider à vivre, à prier chaque jour, à nous unir à sa présence, car Jésus, lui, le bon Samaritain, est toujours auprès de nous. Il vit avec nous, il nous regarde à tout moment. Il a demandé à la Vierge Marie de le faire aussi. Il a demandé à un ange de le faire également. Et combien de personnes nous regardent ? Des personnes que nous avons aimées et qui, au purgatoire ou dans la vie éternelle au ciel, nous regardent et savent comment nous vivons et prient pour nous. Que nous puissions unir l'Église qui vit sur cette terre, l'Église qui souffre de ne pas avoir assez aimé au purgatoire, et l'Église triomphante qui est dans la paix et la vision de Dieu. En effet, comme ce vitrail le montre, aussi bien Moïse que Élie, que Pierre, Jacques et Jean ont vu la beauté et la lumière d'un Dieu qui s'est fait homme, d'un cœur sacré, uni au cœur immaculé de Marie, et qui fait de nous des enfants et des frères et sœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.